VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Lyndon en direct du studio d'FDV au Afrique à Washington. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 janvier 2018. À la une ce soir en Guinée, ouverture de la campagne électorale en vue des élections locales du 4 février prochain. Au Mali, fin de course pour près de 50 gendarmes qui ont abandonné leur poste dans le cercle de Niono. La France et la Grande-Bretagne ont signé hier un traité pour améliorer la gestion de leurs frontières communes. La menace d'une paralysie pèse toujours sur l'administration fédérale américaine. Les sénateurs ont jusqu'à ce vendredi minuit pour voter le budget. Et bien sûr, dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En Guinée, après 10 ans d'attente, les électeurs vont finalement élire les conseillers à la tête des communes. La campagne s'ouvre aujourd'hui. Un peu plus de 5 millions de Guinéens sont donc appelés à voter le 4 février prochain. Les précisions de Zakaria Camara.
Selon l'article 38 du Code électoral révisé, la campagne électorale pour les communales doit durer 15 jours francs. Elle doit donc démarrer dans quelques heures. Exactement à minuit pour un scrutin très attendu. Après 12 ans, les Guinéens vont enfin renouveler les conseillers municipaux le 4 février dans 342 circonscriptions électorales que compte le pays. 5 millions d'électeurs guinéens sont appelés aux urnes dans 15 573 bureaux de vote et 30 000 candidatures sont enregistrées. Le nombre de conseillers à élire dépend de la taille des habitants de la collectivité, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Par exemple, 11 conseillers pour les communes ayant jusqu'à 10 000 habitants ou encore 45 conseillers pour les communes ayant plus de 200 000 habitants. Une fois élus, les conseillers remplaceront les délégations spéciales à la tête des communes installées depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Ces élections communales seront un autre test pour le président guinéen et son parti, le RPG Arc-en-Ciel, après sa victoire aux élections législatives de 2013. Ce scrutin sera très disputé parce que, pour la première fois, les candidatures indépendantes sont autorisées. Zakaria Camara, Conakry, VOA Afrique.
Au Nigeria, 5 employés de la compagnie pétrolière nigériane Sahara Energy Oil Company ont été enlevés par un groupe armé dans le sud-est du pays. Quelques heures auparavant, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger avait publié un communiqué mettant en garde le gouvernement envers la reprise de leurs attaques dans le sud-est pétrolifère. Toujours au Nigeria, des combattants du groupe Boko Haram ont tué 5 personnes dans l'attaque d'un village de l'état de la Damawa dans le nord-est du pays. Un groupe de 10 hommes a envahi 2 maisons dans le village de Kaya hier soir, faisant 4 morts et un autre habitant a été abattu alors qu'il essayait de venir en aide aux victimes. En Casamance, dans le sud du Sénégal, 16 des 22 suspects arrêtés ont été déférés au parquet. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes sans autorisation. 6 autres ont été libérés sans précision sur leur identité. Au Mali, 50 gendarmes ont abandonné leur poste dans le cercle de Niono, région de Ségou. Dès leur arrivée à Bamako, ils ont été désarmés et arrêtés et sont mis à la disposition de la police militaire. Sur place, notre correspondant Kassim Traoré.
Certains parlent d'une tentative de mutinerie échouée, mais la hiérarchie militaire malienne dénonce un abandon de poste. Ils sont au total 50 gendarmes maliens à leur arrivée à Bamako en provenance du théâtre d'opérations comme Gomakura et Diabali dans la région de Ségou. Ils ont été mis aux arrêts parce qu'ils sont arrivés sans informer leur hiérarchie. En effet, ces gendarmes avaient été missionnés pour 1 semaine. Ce délai a été prorogé à 3 mois pour nécessité de service. Durant leur maintien sur le théâtre d'opérations, ces gendarmes, selon leur famille, n'ont pas reçu de salaire et vivaient à leur propre charge. En plus, ils ont participé à la présélection d'un examen de certificat interarmes effectué sur place dans leur secteur d'affectation. Ceux qui ont été admis à cette présélection devraient être autorisés à se rendre à Bamako, centre unique pour l'examen final. En tout cas, cet acte se passe au moment où les FAMA s'apprêtaient à lancer une vaste opération contre les djihadistes au centre du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les troupes somaliennes ont secouru 32 enfants dans un camp d'entraînement des Shebab qui les avaient enlevés. Abdourahmane Dia.
Le ministre somalien de l'Information a indiqué que les 32 enfants qui étaient dans une école du groupe djihadiste Al-Shabaab se portent bien. Selon Abdourahim Omar Osman, il est regrettable que les terroristes recrutent des enfants pour leur inculquer leur idéologie tordue. Cela montre qu'ils sont désespérés et que les populations ont rejeté le terrorisme. Selon la version d'Al-Shabaab, les forces gouvernementales, avec l'aide de 4 drones, ont attaqué une école secondaire dans la région du Chabélé central, tuant 4 élèves et un enseignant. Mais le gouvernement somalien a précisé qu'aucun enfant n'a perdu la vie dans cette opération. Abdelaziz Abou Moussab, un porte-parole de l'armée, a indiqué qu'il s'agit d'enfants kidnappés qui ont été secourus. Dans un rapport publié cette semaine, Human Rights Watch a indiqué qu'Al-Shabaab a ordonné depuis septembre aux villageois dans des zones rurales et aux enseignants des écoles coraniques de leur remettre des centaines d'enfants. Les plus jeunes sont âgés de 8 ans, selon l'organisation basée à New York.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa assure vouloir la présence d'observateurs étrangers lors des élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir dans son pays cette année. Nous voulons des élections crédibles, a-t-il déclaré au Financial Times dans une interview publiée aujourd'hui. J'aimerais que les Nations Unies viennent, l'Union européenne devrait venir, a-t-il ajouté.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'administration fédérale court le risque d'une paralysie si le budget n'est pas approuvé au Sénat aujourd'hui à 20 minuit. Le président Donald Trump a mis la pression sur les sénateurs démocrates avant le vote qui s'annonce très serré. Le point avec Dilly Dico.
Donald Trump a tweeté ce matin « La loi de financement du projet a été approuvée la nuit dernière à la Chambre des représentants. Maintenant, on a besoin des démocrates pour qu'elle soit approuvée au Sénat. Mais ils souhaitent l'immigration clandestine et des frontières faibles. » La Chambre a voté hier soir une extension du budget pour 4 semaines jusqu'au 16 février. Le Sénat doit se prononcer à son tour d'ici minuit. Un shutdown va-t-il se produire ? S'est interrogé Donald Trump sur Twitter. Si cela arrive, ce serait le premier depuis octobre 2013, lorsque des centaines de milliers de fonctionnaires américains s'étaient retrouvés en chômage technique pendant plus de 2 semaines. Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, s'est aussi exprimé sur Twitter pour appeler les démocrates à voter le texte. Il a ajouté que le peuple américain, en particulier les hommes et les femmes en uniforme, mérite mieux qu'une fermeture du gouvernement.
La France et la Grande-Bretagne ont signé hier un traité qui vise à améliorer la gestion technique opérationnelle de leurs frontières communes. Et Kiabadou nous en dit plus.
D'abord réfractaire, Londres a promis une enveloppe supplémentaire de 50,5 millions d'euros pour contribuer à un meilleur contrôle des migrants sur le sol français. Paris et Londres estiment que la relation bilatérale ne doit pas être affaiblie malgré le Brexit. Le traité de Sandhurst, signé par les deux pays, complète les accords du Touquet de 2004. Ceux-ci n'étaient pas parvenus à contrôler le flux continu de candidats à l'immigration au Royaume-Uni. Ce nouvel accord a pour finalité d'accélérer la gestion de l'accueil des migrants au Royaume-Uni. Les délais passeront de 6 mois à 30 jours pour les personnes majeures et de 6 mois à 25 jours pour les mineurs non accompagnés qui ont de la famille en Grande-Bretagne, a affirmé le président français lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique. Ce renforcement des relations franco-britanniques s'est également concrétisé dans le secteur de la défense avec la mise à disposition par le Royaume-Uni d'hélicoptères lourds pour appuyer les opérations françaises au Sahel.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée par Eric Manirakiza.
Au Niger, 3 pauvres sur 5 sont des femmes, qui représentent plus de la moitié des 20 millions d'habitants. D'après des ONG locales, 75% d'entre elles n'ont jamais eu accès à des formations. Un centre dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin appelé l'Oasis entend former 10 000 femmes dans les 3 prochaines années. Le secteur du tourisme se lance dans les nouvelles technologies. Un hôtel du futur au sein réceptionniste muni d'un miroir de reconnaissance faciale sera présenté cette semaine à Madrid. La chambre sera personnalisée au goût du client. Par exemple, le matelas sera équipé de capteurs pour enregistrer les moindres mouvements du dormeur. et permettre éventuellement à l'hôtelier de lui proposer son café à son réveil le matin. Le géant des boissons non alcoolisées Coca-Cola multiplie ses efforts pour rendre ses emballages 100% recyclables dans le monde d'ici 2030. Le limonadier investira aussi des millions de dollars pour éduquer et sensibiliser les consommateurs sur les déchets plastiques qui polluent les océans.
Une musique qui annonce l'arrivée de Nicolas Pineau dans ce studio, c'est l'heure du sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
CHAN 2018 au Maroc, les matchs du groupe C.
Le Rwanda qui affronte la Guinée équatoriale tout à l'heure, 19h30, temps universel pour le coup d'envoi. Et le Nigeria qui se relance après avoir battu la Libye 1-0 ce soir. C'est Fayele, le buteur pour les Super Eagles en seconde mi-temps. On rappelle John que le Nigeria et la Libye sont désormais co-leaders du groupe avec 3 points chacun.
La Côte d'Ivoire, elle, a été éliminée hier Nicolas.
Les éléphants locaux n'ont pas su rester dans la course à la qualification. À Marrakech face à la Zambie, les Ivoiriens ont sombré 2-0 et le bourreau des éléphants s'appelle Moulenga, auteur d'un doublé dans ce match. La Zambie est donc qualifiée pour les quarts de finale, tout comme la Namibie, vainqueur 1-0 de l'Ouganda. On rappelle que l'Ouganda et la Côte d'Ivoire sont éliminés du CHAN.
Et on suivra les matchs du groupe D demain, Nico.
Les Lions indomptables, un pays que vous connaissez bien, le Cameroun, devront se racheter après leur faux pas du premier match. Un adversaire coriace se dresse devant eux, l'Angola. Et le Congo-Brazzaville, leader surprise de ce groupe, jouera contre le Burkina Faso, bien décidé à passer ce premier tour. On écoute au Maroc Amine Birouk pour VOA Afrique.
C'est l'heure de vérité pour les étalons. Ce samedi, Agadir, les joueurs du Burkina Faso doivent impérativement dominer leurs homologues du Congo s'ils désirent poursuivre l'aventure dans ce CHAN 2018. Surtout après le nul qu'ils ont concédé 0-0 devant l'Angola mardi dernier. En face, les Diables Rouges du Congo surfent dans une dynamique positive. Leur victoire devant le Cameroun 1-0 est un succès qui a dopé la confiance des hommes de Barthélémy Ngatsonou. Les Congolais peuvent s'appuyer sur la créativité de leurs joueurs du milieu de terrain et la solidité de leur défense. Deux atouts qui permettraient en cas de succès au Congo de passer en quart de finale et transformeraient les Diables Rouges en outsiders de la compétition. Depuis Tanger au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Le Soudan reste au CHAN.
Et oui, mauvaise nouvelle pour les fans à Conakry. La Guinée avait déposé un recours pour disqualifier un joueur soudanais qui s'était engagé au Mercato avec un club libyen. Eh bien, la Confédération africaine de football a jugé ce vendredi cette demande irrecevable. Conséquence, dans le groupe A, le Maroc, le pays organisateur, et le Soudan restent qualifiés pour ses quarts de finale. En revanche, la Guinée et la Mauritanie sont éliminés.
Et on parle de cyclisme avec la Tropicale Amissa à Bongo.
Et oui, c'est au Gabon. L'Australien Brenton Jones de l'équipe Delco Marseille est arrivé en tête de la cinquième étape de cette course après 141 km entre Oyem et Ambam. Déjà vainqueur de la deuxième étape, Brenton Jones a battu l'Algérien Reguigui et l'Italien Nocentini lors de la montée finale. On rappelle, John, que le Rwandais Joseph Arteruya est toujours en tête de ce classement général. La sixième étape de 107 km aura lieu entre Bitam et Oyem. La course, elle, se termine dimanche à Libreville.
Plus proche de nous dans le championnat de basket nord-américain, NBA dans la cour des grands.
Eh oui, telle a été la conclusion du vote des fans, des médias et des joueurs pour le All-Star Game 2018 qui aura lieu le 18 février prochain au Staples Center, c'est à Los Angeles. Joel Embiid a donc décroché sa première sélection au All-Star Game à l'âge de 23 ans. Le pivot camerounais de Philadelphie est le premier joueur des Sixers à être titulaire au All-Star Game depuis Allen Iverson.
Et maintenant, quelques résultats de la nuit dernière. Et
Cleveland qui a stoppé l'hémorragie contre Orlando, 104-103, mais n'a pas rassuré ses supporters, tandis que Philadelphie s'est imposé 89-80 sur le terrain du leader de la conférence Est, Boston. Et justement à Boston, Joel Embiid a fait le show, le pivot camerounais de Philadelphie qui a marqué 26 points et capté 16 rebonds pour son 19e double-double de la saison. Et puis John, une anecdote évidemment sur Joel Embiid, il a été sélectionné All-Star Game et il y a 4 ans, il voulait sortir avec la chanteuse Rihanna qui lui avait dit à l'époque, reviens quand tu seras All-Star Game. Et donc, il a tweeté dès hier, ça y est, je suis All-Star Star Game, à quand le rendez-vous? On verra si la star américaine répond favorablement à Joel Embiid.
Et si vous serez invité au mariage?
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, production Lionel Gaïma. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Sénégal, où des affrontements entre la police nationale et des étudiants en grève ont abouti hier à un incendie au sein du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants réclament le paiement des arriérés des bourses et un accompagnement financier pour leurs camarades en Master 2. Yacouba Ouidraogo a joint Diène Ngom, président de l'Amicale des écoles et instituts de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Depuis le début de l'année, les étudiants n'ont pas reçu, pour certains, le rappel du début d'année, le paiement du mois de janvier. Pour les étudiants en Master 2, ils doivent avoir un accompagnement et pour certains même, le rappel du début de l'année. La question revient à une question de paiement de bourse. Alors, je pense que nous sommes le 19. Les bourses devraient être payées bien avant le 8. Et depuis là, nous attendons. Il n'y a pas eu, ne serait-ce pas une communication pour nous dire que voilà ce qui s'est passé, ni paiement. Les étudiants qui ne savaient pas où donner la tête se sont dit mais il faut qu'on se fasse entendre pour pouvoir entrer dans nos fonds.
Depuis quand a commencé votre grève?
La grève a commencé il y a 2 semaines de cela ou bien 3. Mais c'est hier que les choses se sont intensifiées.
Vous le disiez tantôt, c'est hier que les choses se sont véritablement envenimées. Il y a eu même incendie dans un des pavillons à l'université là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est Bernard Lafamoisine qui a provoqué une explosion dans cette chambre. Et que, à l'heure où je vous parle, personne ne peut plus loger dans cette chambre qui a été totalement réduite en cendres.
Vous disiez tantôt que le gouvernement n'a pas communiqué sur ce non-paiement des bourses. C'est pourquoi vous êtes en grève. Est-ce qu'il y a eu un début de solutionnement à vos revendications?
À l'heure où on vous parle, on ne peut rien confirmer. Selon certains, le paiement sera effectif aujourd'hui. C'est ce qu'on ne peut pas affirmer parce que jusque-là, on n'a rien vu. Et voilà, à l'heure où je vous parle, même les étudiants sont en train de s'affronter avec les éléments du groupement mobile d'intervention.
Pourquoi?
Oui, pour la même cause.
Jusque-là, vous n'avez pas engagé des négociations avec le gouvernement ou le gouvernement n'a pas engagé des négociations avec vous?
Alors, je vous parle, je n'ai pas eu écho de ces négociations-là et voilà, je ne serai affirmé pas. Vous savez, l'Université Saint-Étienne de Dakar a au moins 4 amicales légales, à savoir l'amicale de la faculté de médecine, l'amicale de la faculté de sciences juridiques et politiques, l'amicale de la faculté de sciences et techniques. Nous travaillons en parfaite synergie, l'ensemble de ces amicales-là. On n'a pas encore fait écho d'une négociation.
Est-ce que la grève a lieu dans toutes les universités à Dakar ou c'est seulement l'université Cheikh Anta Diop?
Non, pour les autres universités, je ne serai affirmé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette grève existe.
Et jusqu'où irez-vous?
C'est pas nouveau, le fait de réclamer les bourses avec la même méthode forte, à savoir investir l'avenir Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est tout ce que nous avons sans besoin, nous, comme manifesté pour pouvoir entrer dans nos fonds.
Diène Ngom, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Burundi, certains commencent à consommer des drogues dures comme la cocaïne dès leur jeune âge. Une association a été agréée l'année dernière pour combattre la consommation de ces substances et informer la jeunesse. Correspondance de Christophe Nkurunziza.
Alain est un jeune Burundais qui consomme la drogue depuis plus de 10 ans. Âgé de 26 ans aujourd'hui, habitant un quartier de la capitale Bujumbura, il lui a été vraiment difficile de se défaire de la consommation de la cocaïne. Mais depuis les fêtes de fin d'année, il ne consomme plus de drogue. Mais il explique à VOA Afrique combien il est dur d'abandonner la drogue.
Ça a commencé avec des problèmes de la vie. On commence parce qu'on dit que c'est une bonne chose, c'est bon, il faut goûter. C'est une très mauvaise chose, il ne faut jamais goûter. Il y a ceux qui n'ont jamais goûté de pas essayer vraiment. Parce que je dirais que c'est la chose la plus dangereuse que j'ai vue dans la vie. Il ne faut jamais goûter.
Alain aime la musique qui, pour lui, est devenue un remède à la drogue. Pas n'importe avec quel instrument, l'ikembe traditionnel.
Ah, je dirais la musique, l'art en général, ça peut aider, c'est une bonne occupation. Ça aide à penser à autre chose, t'oublies un peu la drogue.
Richard Ninine Azgwe, coordonnateur de l'association burundaise qui œuvre sur toute l'étendue de la République du Burundi pour la réhabilitation et la réinsertion des usagers de drogue. Il reconnaît qu'il y a des milliers de Burundais qui prennent de la drogue, surtout des jeunes.
Il y a beaucoup de gens qui prennent de l'héroïne. Le cannabis, c'est toujours un peu soft, mais l'héroïne, ça prend une ampleur grave. J'ai gravé tous les échelons. J'ai commencé par le cannabis, puis j'ai mélangé par les cachets, ça veut dire les pilules. Après les pilules, j'ai commencé à mélanger le cannabis par le tabac et l'héroïne. Puis j'ai pris l'héroïne à part et puis j'ai commencé à m'injecter. Donc je connais le monde de la drogue.
Dans cette association de lutte contre la drogue, 643 personnes sont usagères d'héroïne. Parmi ces jeunes, 225 sont usagers de drogue injectable selon une étude qui a été faite il y a quelques mois. Mais le chiffre peut avoir évolué selon l'étude menée par l'Alliance burundaise contre les drogues en collaboration avec le ministère de la Santé. Sur 175 personnes à mairie de Bujumbura qui utilisent les drogues injectables, le taux de prévalence du VIH-SIDA est de 10,2%, presque 10 fois plus que le taux de 1,4% pour le taux des gens qui vivent avec le VIH en mairie de Bujumbura. Le chargé de plaidoyer et des renforcements des capacités institutionnelles à cette association de lutte contre l'usage des drogues au Burundi estime qu'il faut dépénaliser l'usage de certaines drogues. Eric Saint-Guillaume.
Et il faut que ces enfants sachent bel et bien que ce sont des produits toxiques. C'est un bon moment d'arrêter ça. Aux parents, je parle de l'approchement et de la stigmatisation. Des fois, ces enfants sont victimes de la stigmatisation. Il faut que les parents comprennent ces enfants. Par contre, il faut faire recours aux psychologues, il faut faire recours aux experts, il faut faire recours aux médecins, et surtout, il faut dépénaliser.
Selon des spécialistes, les parents peuvent empêcher les enfants de consommer de la drogue en leur parlant ouvertement des risques encourus avec la consommation de tels produits et aider ainsi les enfants à sortir de cette situation. Les mêmes spécialistes appellent les autorités à punir sérieusement les personnes qui font le trafic des drogues. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a organisé une rencontre à huis clos avec des ambassadeurs africains en exprimant ses regrets sur la situation après les propos polémiques attribués à Donald Trump sur l'immigration. L'initiative de Nikki Haley est-elle une façon de limiter les dégâts? Raissa Girondin a posé la question à René Lec, consultant politique.
D'un côté, on dit que la Maison-Blanche, certains caciques de la Maison-Blanche, activistes politiques de la coalition Trump étaient particulièrement contents de ce qui s'était passé parce que ça a galvanisé un peu la base de Trump. Mais d'un autre côté aussi, on a l'impression qu'ils ont été peut-être un peu surpris par la réaction très négative. Et je crois que cette initiative de Nikki Haley rentre un peu dans le sens d'un peu de damage control, comme on dirait ici.
Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur la politique américaine en Afrique?
Oh, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé de cela. Vous savez, la politique américaine en Afrique, elle est quand même décidée ici, à Washington, par des considérations d'abord de politique intérieure. Même la géopolitique, elle est définie, elle est souvent marquée par le saut des grandes tendances, des grands enjeux de politique intérieure. Je ne crois pas qu'une question comme ça soit une question centrale et va avoir le moindre effet sur l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Afrique. Ce type de propos, c'est essentiellement lié à des questions de politique intérieure. Donald Trump, il est dans une mobilisation permanente des troupes les plus extrêmes de la coalition qui le soutient. Et je crois que c'était ça l'intention au moment où il a tenu de tels propos. L'objectif final, l'audience, c'est sa base ici aux États-Unis.
René Lec, consultant politique.
Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, les États-Unis tentent d'éviter un nouveau shutdown ou un arrêt des activités gouvernementales. Quelles peuvent être les conséquences? Les agences chargées de délivrer des visas pourraient-elles être affectées, par exemple? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. L'Amérique et vous, c'est ce vendredi à 19h30 avec moi, Jacques Aristide, et nos invités.
– Le Sénat américain a repris ses débats sur un projet de budget partiel adopté jeudi soir par la Chambre des représentants en vue de continuer à financer le gouvernement fédéral. Les tiraillements se poursuivent au Congrès où les législateurs défendent des intérêts politiques divergents. Quelques précisions avec vous, Timothée de Normaille.
Alors John, il faut dire que le budget 2017 expire ce soir à minuit. Les législateurs ont deux options, soit adopter une rallonge budgétaire d'un mois, ce qui permettrait de maintenir le gouvernement en activité, en attendant de négocier un budget en bonne et due forme pour 2018, ou alors laisser le budget actuel expirer et donc fermer le gouvernement fédéral jusqu'à ce que le Congrès s'entende sur un budget, l'année fiscale s'achevant le 30 septembre prochain. Le danger dans ce dernier cas de figure est que l'on ne sait pas combien de temps prendraient les discussions et c'est toujours un grand risque politique, John.
Alors, où se situent les principaux points de divergence?
Pour que la mesure adoptée par la Chambre des représentants passe au Sénat, il faut au moins 60 voix et les Républicains, qui sont majoritaires avec 51 sénateurs, ont besoin des démocrates pour faire passer cette mesure. La principale pierre d'achoppement est la situation des Dreamers, ces quelques 690 000 personnes amenées aux États-Unis en bas âge et dont la situation vis-à-vis de l'immigration n'est pas réglée. L'administration Obama avait pris une mesure temporaire pour les protéger contre l'expulsion en attendant qu'une solution soit trouvée. Les démocrates exigent que toute solution budgétaire comprenne une régularisation de la situation de ces Dreamers. Les républicains sont en général d'accord, mais le président Trump exige le financement d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, une de ses principales promesses électorales, ce que rejettent les démocrates. Autre difficulté, le programme d'assurance maladie pour les enfants pauvres. Le président Trump s'oppose à une mesure prolongeant de 6 ans cette assurance, alors que les démocrates la soutiennent. Certains républicains y sont favorables, pensant que cela convaincrait les démocrates à voter en faveur du budget temporaire. Il se trouve que la rallonge budgétaire en cours d'examen, John, n'exclut pas de protection pour les Dreamers et sa disposition concernant l'assurance des enfants pauvres est en deçà des attentes des démocrates. En outre, certains républicains jugent que ce projet ne prévoit pas assez de fonds pour l'armée américaine.
Alors, on entend dire que, faute de compromis, le gouvernement fédéral sera fermé à minuit ce vendredi. Qu'est-ce que cela signifie?
Eh bien, cela veut dire que tous les services gouvernementaux cesseront de fonctionner, à l'exception des services essentiels comme la sécurité nationale, la défense et certaines agences fédérales. De nombreux fonctionnaires resteront à la maison, comme ce fut le cas en 2013 où ils avaient été placés en chômage technique pendant 16 jours. John.
On va donc continuer de suivre cela. Merci Timothée de Normaille.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOAAfrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma. Cédric Franklin était à la console. Présentation John Linden, merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu sur notre page Facebook et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.